Évidemment, le fait de se passer de la présence massive de militaires occidentaux apporte beaucoup plus de résultats positifs au niveau sécuritaire. Dans le golfe de Guinée, ce n'est plus un secret pour personne. Les Occidentaux ont clairement envahi la région. Certains pays comme la Guinée équatoriale ont opté pour un équilibre en faisant également venir des navires de guerre russes et iraniens. Mais ce n'est pas tout. Les alliances intra-africaines se sont également multipliées, apportant de même meilleurs résultats que des alliances avec les Occidentaux. Au grand dam de l'Occident, les résultats sont bel et bien là. Le golfe de Guinée a enregistré 34 incidents de piraterie maritime et de vol à main armée en 2021, soit une forte baisse par rapport aux 81 de 2020, a déclaré un organisme maritime mondial. Dans son rapport annuel sur la piraterie publié jeudi, donc le Bureau maritime international a attribué la baisse des incidents de piraterie à la présence accrue de navires donc de la marine internationale et à la coopération entre les autorités régionales. Le BMI salue les mesures énergiques prises par les marins internationaux et les autorités régionales dans le golfe de Guinée qui semblent avoir contribué à la baisse du nombre d'incidents signalés et au maintien de la sécurité des équipages et du commerce, comme l'a déclaré le directeur du BMI dans son rapport. Toutefois, les Occidentaux ont tout intérêt à ce que la région reste dangereuse et que les pirates continuent à s'attaquer aux navires russes, chinois ou encore turcs, car les navires iraniens n'ont visiblement pas encore été touchés. La baisse des incidents de piraterie dans le golfe de Guinée a également contribué à la réduction globale des incidents signalés en 2021 dans le monde, indique le rapport, ajoutant qu'en 2021, le centre de signalement des actes de piraterie du BMI avait recensé 132 incidents de piraterie et de vol à main armée contre des navires dans le monde, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 1994. L'expansion du terrorisme du Sahel jusque dans les pays du Golfe de Guinée, donc annoncée par la DGSE française il y a plus d'un an et demi, est également liée au plan d'invasion de toute l'Afrique de l'Ouest, aussi bien au niveau terrestre que maritime et même aérien. Ces plans sont pourtant bloqués à cause notamment donc de deux verrous que les Occidentaux n'arrivent pas à faire sauter dans le Sahel, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Le Cameroun et le Nigeria résistent également, c'est pourquoi il y a eu une réorganisation dans le camp des terroristes à la solde occidentale. Boko Haram s'est plus dirigé donc depuis le nord du Nigeria vers le nord du Cameroun suite à l'échec des séparatistes anglophones pour déstabiliser le pays et Daesh a repris donc les commandes dans le nord du Nigeria. Au niveau maritime et terrestre, il est clair que les Occidentaux ont du mal à mettre en place leur plan de recolonisation de l'Afrique. Les terroristes au Sahel sont maintenant confrontés à des armées nationales qui gagnent largement du terrain et au niveau maritime, on a pu voir à de nombreuses reprises des attaques conjointes entre donc deux pays africains qui ont neutralisé à plusieurs reprises des pirates. La fameuse coalition militaire africaine est vraiment en train de se former et l'Occident est en net recul. Au Mali, la guerre entre le Mali et la France s'est transformée visiblement en une guerre entre l'Afrique et l'Union européenne. Comme le prétend le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, la situation au Mali et au Sahel est devenue une affaire africaine et européenne, ce n'est plus une affaire franco-malienne, a-t-il fait savoir, en référence donc à la participation de 10 pays européens au groupement de forces spéciales Takuba, donc déployé au Mali à l'initiative de la France et seulement de la France. Aussi, il a accusé les autorités maliennes de duper les partenaires. Les militaires essayent de duper l'ensemble de ses partenaires. Il y a une fuite en avant, un appel confirmé à une milice extérieure en faisant évidemment référence à l'arrivée des soldats russes et le calendrier de transition est tout à fait inacceptable, a insisté Jean-Yves Le Drian, qui a ajouté que c'est maintenant à la junte de prendre ses responsabilités, sinon elle prend le risque de voir ce pays être asphyxié. Des menaces et toujours des menaces à l'encontre des pays africains qui se soulèvent contre les néocolons. La France et l'Union européenne préparent donc une offensive contre les pays africains qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Suite au viol de l'espace aérien du Mali dans la journée du mardi, donc par un aéronef français de type A400 immatriculé FRBAN provenant d'un pays de l'espace CDAO qui a hermétiquement fermé ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali, donc la Côte d'Ivoire, Bamako réagit et met en garde. Dans son communiqué, donc publié mercredi, le porte-parole du gouvernement de la transition du Mali a dénoncé le viol donc de l'espace aérien du Mali par un aéronef français donc dans la journée du mardi vers la région de Gao au Mali. Pour les autorités de la transition malienne, un survol du territoire du Mali par un pays de la CEDEAO est une violation, voire une provocation flagrante, d'autant plus qu'il s'agit d'un avion français, une puissance occidentale qui est à la manœuvre de toute cette situation néfaste contre le Mali. Après la CEDEAO, la France a manifesté cette même volonté auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne s'est malheureusement pas laissé instrumentaliser grâce au soutien de la Russie et de la Chine. Il faut rappeler que la France est accusée comme étant donc le soutien sournois qui entretenait les terroristes au Mali depuis très longtemps. C'est pourquoi, au-delà d'une provocation, l'État du Mali a perçu ce viol de son espace aérien comme une autre manigance de la France auprès donc des terroristes donc, qui ont terrorisé près d'une décennie de la population malienne. Le gouvernement, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelles violations de l'espace aérien malien, a-t-il mis en garde donc le gouvernement de la transition du Mali. De plus, en parallèle à cette info, en Centrafrique, le 10 janvier, dans la ville de Moyenne-Sido, un avion français Mirage a également été repéré qui aurait également, donc illégalement, pénétré dans l'espace aérien de la République centrafricaine. La population locale a également entendu des explosions et de forts grondements. Les Centrafricains sont très indignés que les avions français ne respectent pas les frontières et la souveraineté de la République centrafricaine. Il y a de nombreux rapports du franchissement de manière illégale des frontières de la Centrafrique par la France, comme les Maliens. Ces actes donc d'agression de la souveraineté de la Centrafrique font toujours l'objet de dénonciations de la part de tous les Centrafricains. Et la France croit toujours que les États africains vont garder le silence. Actuellement, il est clair que ce qui gêne la France, c'est que sa réputation est en chute libre en Afrique, mais surtout à travers le monde entier. Les militaires occidentaux n'ont jamais ramené la sécurité dans un pays aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique. Et sans eux, avec le soutien des partenaires autres que les pays occidentaux, donc la donne est tout à fait différente. Avec l'implication de pays comme la Russie, l'Iran ou la Chine, il est clair que la sécurisation d'un pays se fait assez rapidement. Au Mali ou en Centrafrique, ce que les médias mainstream ou les dirigeants occidentaux omettent de rappeler, c'est que suite à leur détachement des pays occidentaux, les armées nationales avancent maintenant rapidement dans la sécurisation de leurs pays respectifs. La CEDEAO qui est seulement là comme pantin de l'Occident pour instaurer des sanctions au lieu de s'impliquer dans la sécurisation du Sahel est un point donc qu'elle ne pourra plus cacher aux yeux donc des Africains. La crédibilité des instances africaines comme la CEDEAO est définitivement détruite et ce seulement parce qu'ils n'ont pas suivi la voie africaine mais occidentale. Ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal, les populations en Afrique de l'Ouest savent maintenant que leur avenir est entre leurs mains et de personne d'autre. D'ailleurs, ce vendredi, un grand meeting de soutien aux autorités de la transition est prévu sur le boulevard de l'Indépendance. Il en est de même dans les autres localités du pays et dans la diaspora, selon les initiateurs composés des partis politiques, d'organisations religieuses, de mouvements, d'associations, de regroupements, de citoyens simples se reconnaissant dans la défense de la patrie. Il s'agit donc de répondre à la CEDEAO et à l'UMOA suite aux sanctions infligées le 9 janvier lors du sommet extraordinaire tenu à Accra, au Ghana, donc au Mali. Les autorités de la transition ont ainsi appelé les Maliens dans toute leur diversité à sortir ce vendredi partout au Mali et à l'extérieur du Mali. Nous sortons pour répondre aux sanctions injustes, injustifiées, téléguidées, instruites de ces deux institutions sous-régionales aux ordres de la France au lieu de servir leur peuple. Nous sortons ce vendredi pour répondre à l'appel patriotique à défendre notre souveraineté, notre unité, indivisibilité, notre dignité. Nous sortons pour dire non aux sanctions bizarres prises qui violent les textes des dites institutions, donc comme la fermeture des frontières terrestres et aériennes et le gel des avoirs du Mali par la CEDEAO et l'UMOA qui sanctionnent le Mali, alors que ces textes disent noir sur blanc qu'une décision ne saurait être prise qu'à l'unanimité de ses pays membres, a fait savoir le docteur Alaïe Bokoum. Selon lui, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA pensaient qu'en sanctionnant les autorités de la transition, les Maliens allaient se lever contre les autorités qui travaillent conformément aux recommandations de leur peuple. C'est l'effet inverse qui s'est produit. Ces sanctions ont permis au contraire aux Maliens de s'unir, de se rassembler, de s'attacher plus que jamais à leur pays, d'affirmer plus leur dignité, solidarité, fierté pour défendre la patrie commune. Que les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA sachent que les 5 ans demandés par les autorités sont les recommandations des assises nationales de la refondation, donc par le peuple dans tout le pays et dans la diaspora. C'est donc le peuple malien qui demande ce timing. Ils veulent enterrer le Mali et les Maliens vivants. Mais ça ne se fera pas facilement car le Mali est un pays d'honneur, de dignité, de fierté, a conclu le docteur Boukoum. Et même avec l'aide de l'Union européenne et des États-Unis, la France ne pourra pas faire face au peuple malien. Il est clair que les populations de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont indignées et le soulèvement du peuple malien aura bien l'effet domino tant redouté par les Occidentaux. Depuis, le retour de plus en plus affirmé de la Russie dans son interaction avec les pays du continent africain, il est devenu évident que la stratégie annoncée de Moscou pour l'Afrique en qualité d'une de ses principales priorités en matière de politique extérieure se confirme dans les faits, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Depuis donc le sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019, l'interaction russo-africaine a cessé de poursuivre sa marche en avant, et ce malgré les innombrables critiques de la part des principaux adversaires géopolitiques de l'État russe. Cela apparaît d'ailleurs comme une suite logique à l'heure où la Russie démontre clairement l'importance de l'orientation africaine dans sa politique internationale et que du côté des États africains, surtout ceux qui ont déjà fermement affirmé donc leur droit à la souveraineté véritable ou sont en voie de le faire, la volonté est résolument réciproque. Au-delà de l'aspect purement interétatique, la Russie peut aujourd'hui compter également sur le soutien d'une large partie de l'opinion publique africaine qui voit en elle un partenaire fiable et sincère. Les événements récents en République du Mali ne font d'ailleurs que renforcer un peu plus donc cette thèse, car parallèlement au désir des autorités du pays de faire appel à un partenaire de longue date dans le volet sécuritaire, dans un cadre souverainiste, la société civile malienne a également joué un rôle de premier plan dans ce rapprochement et dont les opinions ont été justement et largement entendues par l'actuel pouvoir du pays. Le rôle des thèses panafricaines et souverainistes prend en effet donc un poids plus que considérable à l'échelle continentale, y compris même dans les pays où les pouvoirs traditionnellement orientés sur les intérêts de l'établissement occidental, donc des États-Unis et de la France notamment, se retrouvent désormais à devoir faire face à une montée des pressions populaires auxquelles ils ne pourront trop longtemps faire la sourde oreille. Ceci étant dit, beaucoup de choses doivent encore être améliorées dans cette interaction russo-africaine post-soviétique, orientée sur un principe souverainiste, panafricaniste et pro-multipolaire. Si les échanges économico-commerciaux entre les pays africains et la Russie continuent d'aller à la hausse, il n'en demeure pas moins qu'un travail important doit encore être fait, et ce des deux côtés. Comme une multiplication des contacts directs entre les opérateurs économiques russes et africains dans le commerce bilatéral, et parmi les recommandations publié récemment par le Conseil russe pour les affaires internationales, on retrouve la poursuite de la diversification des partenariats économico-commerciaux avec les États africains, notamment ceux qui ne font pour le moment pas partie des principaux partenaires économiques de la Russie sur le continent, ainsi qu'une plus large ouverture du marché russe aux exportations africaines. Mais également celui de l'Union économique eurasiatique regroupant en plus de la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kyrgyzstan. La coopération dans le secteur de l'enseignement doit elle aussi être revue à la hausse à l'heure où la Russie accueille pas moins de 270 000 étudiants étrangers, parmi lesquels près de 21 000 étudiants proviennent des pays africains. Un nombre appelé à croître encore plus dans les prochaines années au moment où la Russie fait traditionnellement partie du top 10 des principales destinations formation pour les études supérieures au niveau mondial. Un point très important concerne également une implantation d'industries de transformation d'acteurs industriels russes dans les pays africains. Cela est d'autant plus d'actualité à l'heure où l'Afrique veut pouvoir bénéficier beaucoup plus de ses atouts en termes de ressources naturelles. Pendant trop longtemps, le continent africain était vu comme une base stratégique pour l'obtention des matières premières brutes en vue d'être transformées dans les régions des acteurs bénéficiaires. Générant d'énormes bénéfices pour ces derniers, mais incomparablement moins pour les États propriétaires des dites ressources. Quant aux pays africains intéressés par ce type de partenariat, les conditions nécessaires se doivent d'être créées pour pousser les opérateurs économiques et industriels à aller dans cette direction dans un esprit gagnant-gagnant. Évidemment, il sera impossible de ne pas faire mention d'une interaction solidaire dans les instances internationales. La Russie va très certainement soutenir ses alliés africains sur la scène internationale, y compris onusienne, sachant qu'au-delà d'être l'une des principales puissances mondiales, est également membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Aussi, les pays africains partagent des relations d'alliance et de partenariat stratégiques avec Moscou et pourront apporter le soutien nécessaire à la partie russe, notamment lors des votes impliquant l'ensemble de la communauté internationale. Cet aspect a une importance particulière à l'heure où une infime minorité mondiale continue de s'autoproclamer être la prétendue communauté internationale avec le soutien de régimes affiliés. Un schéma qui est inacceptable pour les principaux défenseurs de l'ère multipolaire actuelle, dont la Chine, la Russie et même l'Iran. Concernant justement l'interaction de Pékin et de Moscou, il apparaît donc aujourd'hui de plus en plus clairement que les deux puissances partageant des visions stratégiques communes sur un très grand nombre de dossiers internationaux et dans divers domaines, politique, économique, sécurité entre autres, pourront travailler dans la complémentarité du savoir-faire réciproque, y compris dans leur interaction stratégique avec l'Afrique. C'est une réalité supplémentaire à prendre en compte, et tout cela pour dire que les prochaines années seront effectivement décisives pour le partenariat russo-africain, et ce, dans de nombreux domaines d'intérêt commun. Et loin de se limiter seulement au partenariat militaro-sécuritaire, bien que ce dernier aspect donc, fera bien évidemment partie des axes prioritaires entre l'Afrique et la Russie, d'autant plus à l'heure où cela est largement demandé aussi bien par les autorités des pays africains souverains qu'au niveau d'une large partie des populations africaines. Le tout au moment où les principaux critiques de la présence russe comme chinoise n'ont pas été en mesure d'apporter des résultats dignes de ce nom dans le volet sécuritaire, notamment au Sahel. Et ayant, en outre, été les principaux acteurs du chaos et de l'insécurité qui se sont largement propagés dans les pays concernés. Cela sans même compter donc la poursuite de l'interférence dans les affaires intérieures d'États africains avec le maintien d'un agenda purement néocolonial, ainsi que d'une approche ouvertement hystérique à l'idée que les Africains soient capables de choisir eux-mêmes leurs partenaires et de faire également d'eux-mêmes des analyses géopolitiques et stratégiques. Dernier point sur le volet sécuritaire, il ne peut y avoir de développement digne de ce nom d'une nation sans la souveraineté et sa sécurité. Les populations africaines l'ont, pour grand nombre d'entre elles, parfaitement compris. Tout le reste n'étant que gesticulation de nostalgique d'un ordre unipolaire révolu. L'Afrique peut et doit devenir l'un des principaux centres de la multipolarité et la Russie pourrait y contribuer. En 2021, des processus de réconciliation nationale ont démarré dans certains pays d'Afrique, marqués par des crises sociopolitiques et militaires. Et si les contextes et enjeux diffèrent quelque peu, chaque parti y met du sien, tant bien que mal, pour atteindre les objectifs de paix. La série des réconciliations nationales se poursuit dans certains pays d'Afrique, donc après la Centrafrique ou encore le Mali, où des assises nationales se sont tenues en fin décembre. C'est au tour du Tchad et de l'Éthiopie d'envisager un dialogue destiné à apaiser donc les tensions dans leurs nations donc respectives et les engager sur la voie de la paix. Le pouvoir de N'Djamena, qui a fixé les siennes pour le 15 février 2022, a reçu un signal positif de la part de l'opposition. Plusieurs coalitions donc de partis politiques et d'organisations civiles ont approuvé la démarche, insistant néanmoins sur l'équité des représentations à la table des négociations le caractère exécutoire des décisions prises et la nécessité d'un référendum constitutionnel. En signe de bonne volonté, le Conseil militaire de transition a autorisé la tenue, donc le samedi 8 janvier, d'un meeting géant du parti de l'opposition, les Transformateurs, dirigé par Success Masra. Du côté d'Addis Abeba, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a gracié ce vendredi 7 janvier une vingtaine d'opposants notoires, et parmi eux, Eskinder Nega du parti donc Balderas, Jawar Mohamed et Bekele Gebra de l'Oromo Federalist Congress, et même des leaders du fameux TPLF comme Abadi Zemou, Kidusan Nega, Sipahat Nega et Abai Woldou. Plusieurs des personnalités graciées sont déjà sorties de prison. Le gouvernement dit prôner le dialogue pour atteindre une unité durable, affirmant que l'Éthiopie fera tous les sacrifices à cette fin. Une fin que les graciés n'estiment possible qu'après la libération de dizaines d'autres prisonniers et le règlement du conflit tigréen, toujours bloqué dans un statu quo. Les amnesties donc ont été saluées par l'ONU et l'Union africaine. Au Burkina Faso, l'heure est à l'Union sacrée contre le terrorisme, un temps en marge des instances républicaines pour exiger une amélioration de la situation sécuritaire dans le nord du pays. L'opposition a effectué son retour au Conseil national du dialogue politique. Le cadre de concertation a décidé de lever les suspensions sur les assises du gouvernement et nous allons reprendre notre place au niveau de la réconciliation nationale, a annoncé Ediko Boingo, son chef de file. Pour résorber son déficit d'approvisionnement en énergie et en eau potable, Gabon planifie un investissement de 500 millions de dollars d'ici 2023. Dans le même temps, l'exécutif veut s'assurer que la société d'énergie et d'eau joue pleinement son rôle. La nouvelle convention de concession d'une durée de 20 ans signée le 5 janvier 2022 entre l'État et la société d'énergie et d'eau du Gabon, donc SEEG, met un accent particulier sur la protection des consommateurs au Gabon, comme l'a indiqué le ministre de l'Énergie et des ressources hydrauliques dans une interview accordée à Gabon Premier. Ainsi, en cas de coupure d'eau et de l'électricité, l'entreprise pourrait écoper des sanctions de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique et de l'État. Lorsque surviendront des interruptions de service dont il sera démontré que c'est du fait de la SEEG, soit de son outil de production, soit de sa distribution, et sur des éléments qu'elle aurait pu anticiper, la convention prévoit qu'il peut y avoir désormais des amendes infligées par le gouvernement, mais aussi par le régulateur. Le régulateur a été mis en place par l'État pour s'assurer que les conventions qui sont signées avec les opérateurs soient respectées, comme l'explique le membre du gouvernement, qui reconnaît que l'État n'a pas souvent été regardant sur l'exécution de l'ancien contrat de distribution d'eau et d'électricité. Autre nouveauté de ce contrat avec la SEEG, l'implication pour la première fois des associations des consommateurs dans l'élaboration du règlement de service. C'est l'élément qui permet à la SEEG d'améliorer la qualité du service, mais aussi aux consommateurs de savoir quels sont ses droits et ses obligations vis-à-vis de l'opérateur, explique le ministre. Donc, la possibilité donc pour les consommateurs d'interpeller la SEEG en cas de mauvaise qualité de service, et l'entreprise a l'obligation d'y répondre car chaque client est lié à la SEEG par un contrat, et lorsqu'il y a des avaries, le client a le droit et même le devoir de saisir la SEEG pour des réclamations, a-t-il souligné. La dynamique de compétition qui prévaut dans le ciel africain contraint les leaders de l'industrie tels que Ethiopian Airlines à adopter une stratégie de veille. Dans cet environnement hostile, le transporteur éthiopien table sur des services innovants pour se démarquer. Ethiopian Cargo et Logistics Service, la division spécialisée dans le transport de fret de la compagnie Ethiopian Airlines, a annoncé le lancement d'un nouveau service de réservation en ligne pour le transport de fret aérien. Ce service digitalisé, accessible à partir d'une plateforme, permettrait donc aux clients de vérifier les horaires de vol, la disponibilité de l'espace, la capacité de chargement du fret et de réserver en temps réel leur expédition. La mise en place de cette innovation constitue une avancée significative dans le processus de migration progressive vers la digitalisation des services du groupe, qui a récemment lancé, donc grâce à un partenariat avec Car Trawler, une offre de location de voitures en ligne. ligne. Les expéditions de fret donc devraient s'effectuer dès lors avec plus de facilité grâce à la surpression donc de la paperasse et la réduction donc des contacts physiques, ce qui pourrait renforcer les performances opérationnelles du groupe et contribuer à l'efficacité de sa politique en termes de durabilité. En mars 2021, le gouvernement béninois a transmis au Parlement un texte de loi pour examen. Il est relatif au développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Il permettra, entre autres, de renforcer l'implication du secteur privé dans l'EFTP. Le 11 janvier dernier, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi donc, numéro 2022-01 portant loi cadre sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Sur donc, les réseaux sociaux, le président de l'institution donc, a fait savoir que cette loi a pour objectif global de mettre en place des dispositifs adéquats et inclusifs pour une formation technique et professionnelle de qualité accessible à tous et adaptée aux besoins du développement économique. La loi qui abroge certaines dispositions de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale jusque-là en vigueur introduit plusieurs innovations dont l'implication du secteur privé dans le pilotage de l'EFTP. Cette innovation cherche à aligner les compétences aux besoins des entreprises. Celles-ci auront désormais une place de choix dans l'élaboration et l'actualisation des programmes de formation. Cette loi apporte d'autres innovations. Il s'agit notamment de la mise en place d'une approche éducative, inclusive et holistique, la régulation des flux en inversant la tendance en faveur de l'EFTP, la révision du mode de gouvernance pédagogique et administrative et l'arrimage de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Pour rappel, la loi cadre constituée de 48 articles regroupés en 5 chapitres a été soumise au Parlement pour examen en mars 2021.